Le retour des informations, c'est avec vous, Maxime Fayolle. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'est la journée internationale des droits de l'homme aujourd'hui et pourtant la communauté internationale peine à se mettre d'accord pour un cessez-le-feu à Alep en Syrie. Hier encore, des dizaines de milliers de civils ont tenté de fuir la ville bombardée par le régime. Le reportage sur place de Valérie Crova. La France engagée en Syrie mais dans la lutte contre l'État islamique. Le porte-avions Charles de Gaulle est en mission en Méditerranée depuis le mois de septembre. Une mission complexe pour l'équipage. Nous monterons à bord du porte-avions avec Franck Madvon. Direction l'Italie ensuite. Où la plus vieille banque du pays et du monde est au bord de la faillite. La BMPS doit trouver 5 milliards d'euros d'ici la fin du mois, au risque de voir l'État italien payer, ou pire, les petits épargnants. David Ravier nous explique la genèse de cette crise bancaire et nous irons dans la grotte de Lascaux en fin de journal. Immersion avec le scénographe de la 4e réplique de la grotte, inaugurée aujourd'hui. Plus vrai que nature, c'est garanti.
Et après votre journal, nous recevrons dans la 2e heure de cette matinale du samedi la journaliste Laure Mandeville, à qui nous demanderons qui est vraiment Donald Trump un mois après son élection.
C'est la pire catastrophe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, décrit la situation humanitaire à Alep. Le régime de Bachar el-Assad contrôle désormais 85% des quartiers est de la ville détenus par les rebelles. Hier, l'ONU a voté une résolution non contraignante pour la fin des massacres, sans la Russie ni l'Iran. Les Russes qui doivent discuter avec les Américains aujourd'hui à Genève. Les Américains qui vont d'ailleurs envoyer 200 soldats de plus en Syrie. Il y a encore plus de 10 000 civils ont fui les quartiers est, mais certains, Valérie Crova, sont empêchés de fuir par les insurgés.
Plusieurs témoignages recueillis auprès des civils sortis d'Alep Est font état d'une volonté délibérée de la part de certains groupes de l'opposition, dont les djihadistes du Fatah al-Sham, de ne pas les laisser partir. Ils nous disaient de dégager, ils ne nous donnaient pas l'autorisation de sortir. On s'est enfui pour arriver jusqu'ici. Ils nous utilisaient comme boucliers humains pour ne pas être bombardés.
Ils ont pris les cartes d'identité des jeunes et les empêchés de sortir.
D'autres civils expliquent qu'ils ont dû forcer les points de passage et que certains rebelles n'hésitent pas à faire usage de leurs armes pour empêcher les habitants de quitter leur quartier.
Nous, on a essayé trois fois de sortir et ils tiraient directement sur nous. Il y a un cas, il y a quelqu'un qui a insisté de sortir, ils lui ont tiré dessus et ils lui ont blessé la jambe.
Plusieurs femmes affirment que leur mari ou leur fils ont été emmenés par l'armée après avoir rejoint les zones contrôlées par le gouvernement. Certains pourraient avoir été enrôlés. L'armée syrienne a perdu beaucoup d'hommes depuis le début du conflit. On parle de plus de 80 000.
L'envoyé spécial de France Culture à Alep, Valérie Crova. La France, elle, ne participera pas à ces pourparlers russo-américains à Genève. Mais 10 pays amis de l'opposition syrienne doivent se réunir à Paris ce matin. La France qui est engagée militairement dans ce conflit syrien sur le front contre l'État islamique. Le porte-avions Charles de Gaulle est déployé depuis septembre en Méditerranée. Hier, François Hollande s'est félicité à son bord des résultats impressionnants de la coalition. Le porte-avions doit maintenant rentrer à Toulon pour un arrêt technique d'un an et demi. C'est la fin d'une longue mission pour l'équipage. Franck Madvon a pu rencontrer plusieurs membres à bord du Charles de Gaulle.
Après trois missions et des raids quotidiens en Irak et en Syrie, le Charles de Gaulle prend donc la route du retour. Dans l'équipage, le soulagement se mêle à la fierté de la mission accomplie.
On se doutait que la fin de mission approchait. Néanmoins, on est content de retrouver nos familles après trois mois et demi de mission.
Trois mois, c'est long. Pourquoi ? Parce que la famille est loin, tout ça, c'est pas évident. Mais après, tant qu'on est motivé dans le travail, ça passe. La France compte sur nous, on doit pas laisser tomber. Donc, c'est notre motivation.
Ces derniers mois, le groupe État islamique a perdu beaucoup de terrain en Irak et en Syrie. Le capitaine de frégate Alban, pilote de Rafale, a senti le poids de la mission sur ses épaules. Il s'attend à lire cela dans les yeux des civils qu'il va croiser en France. Ce n'était jamais le cas, par exemple, après ses missions en Afghanistan.
Là, depuis janvier 2015, à chaque fois que je rentre, on me dit « Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que ça avance? Est-ce que vous progressez ?» J'ai même maintenant un peu ce que font les Américains, des « Merci pour ce que tu fais », etc. Et c'est vrai que les attaques sur le sol français, je pense, ont fait prendre conscience aussi aux Français qu'il vaut mieux porter la guerre chez l'ennemi plutôt que la faire chez soi.
La France reste déployée au Moyen-Orient contre Daesh. Les opérations ne sont pas terminées. La coalition poursuit aussi ses raids. Les libérations de villes comme Mossoul ou Raqqa prendront encore du temps.
Reportage de Franck Madvon et cette mission contre l'État islamique en Syrie, c'est l'une des conséquences des attaques terroristes sur notre sol. Un djihadiste français présent en Syrie a d'ailleurs été tué par une frappe de drone le mois dernier. C'est le département américain de la Défense qui l'affirme. L'autre conséquence des attentats, c'est la mise en place de l'état d'urgence depuis un peu plus d'un an. Le gouvernement souhaite le prolonger jusqu'au 15 juillet prochain. Ce sera débattu aujourd'hui lors d'un conseil des ministres exceptionnel et voté la semaine prochaine au Parlement. Une prolongation qui divise à gauche comme à droite. Le député Les Républicains Georges Fenech votera pour, par solidarité avec son groupe. Mais pour lui, il faut en sortir au plus vite.
À titre personnel, je préférerais qu'on mette des moyens dans l'institution judiciaire, dans les moyens des juges d'instruction, du parquet spécialisé, qui eux font des enquêtes en profondeur, qui permettent de démanteler des filières. La lutte contre le terrorisme par des enquêtes approfondies. L'état d'urgence n'a qu'un effet limité dans le temps, en réalité, qui joue sur l'effet de surprise. Nous avons estimé que l'effet réel de l'état d'urgence est dans les 15 jours de sa mise en œuvre. Ensuite, ceux qui peuvent faire l'objet de perquisitions administratives prennent toutes sortes de précautions, sachant qu'ils sont des cibles potentielles. Et les résultats qui nous ont été donnés révèlent qu'en effet, très très peu de procédures ou de perquisitions ont un lien direct ou lointain avec des faits de terrorisme. Sur quelques 4500 perquisitions administratives, une quarantaine pouvait avoir un lien, et encore c'était plus des affaires, je dirais, d'apologie du terrorisme que de véritables filières. Faut-il vraiment sacrifier l'état de droit totalement à l'état d'urgence pour un résultat qui n'est pas franchement convaincant.
Le député Les Républicains Georges Fenech avec Ilan Malka. Un conseil des ministres où l'on parlera pollution également. Ségolène Royal va dévoiler plusieurs mesures pour lutter contre les pics de pollution. Un pic qui est d'ailleurs terminé à Paris. Il n'y a plus de circulation alternée aujourd'hui.
La Russie a-t-elle interféré dans l'élection présidentielle américaine? Une enquête va être menée après des cyberattaques qui ont eu lieu pendant la campagne.
Et oui, on se rappelle des mails piratés du camp démocrate sortis par Wikileaks, mais aussi certains bureaux de vote qui auraient peut-être été victimes de manipulations. Des accusations qui sont balayées de la manche par Donald Trump, Grégoire Pourtier.
Donald Trump a encore réfuté cette semaine toute implication de la Russie lors de la campagne présidentielle américaine, mais l'enquête diligentée par Barack Obama devrait éclairer sur les cyberattaques qui auraient favorisé la victoire du candidat républicain. L'objectif ne serait pas de remettre en cause le résultat de l'élection, mais de documenter puis de rendre public l'implication de la Russie, soupçonnée d'avoir piraté des organisations politiques, voire carrément des systèmes informatiques utilisés lors du scrutin. La confirmation de tels agissements serait douloureuse pour la démocratie américaine, mais les passer sous silence serait encore pire, estiment plusieurs élus du Congrès qui pressaient Barack Obama d'agir depuis plusieurs semaines. Le département de la sécurité intérieure et la direction du renseignement américain avaient lancé leurs premières accusations contre Moscou un mois avant le scrutin. Des mails confidentiels de responsables du Parti démocrate avaient par exemple été dévoilés par le site Wikileaks, semant la discorde dans le camp d'Hillary Clinton. Plus troublant encore, les résultats de petits bureaux de vote auraient pu eux aussi avoir été manipulés. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis sont victimes de ce type d'ingérence. En 2008, le FBI avait alerté sur des intrusions chinoises dans les systèmes. Et puis, au-delà du rôle obscur des hackers, un autre type de cyberattaque a miné l'élection américaine. La diffusion massive via les réseaux sociaux d'informations fausses qui, bien que parfois délirantes, ont supplanté les informations réelles pour de très nombreux électeurs.
Des précisions de Grégoire Pourtier, des précisions qui sont l'occasion d'accueillir votre invité, Caroline, juste après ce journal. C'est Laure Mandeville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro, ancienne correspondante aux États-Unis, spécialiste aussi de la Russie. Alors, est-ce qu'un tel piratage des élections américaines par Moscou, ça vous semble plausible ?
Écoutez, moi je reste prudente, mais c'est vrai que il y a de la fumée. Je ne sais pas s'il y a du feu derrière tout ça, mais à travers tous les pays occidentaux, on a vu depuis ces derniers mois une Russie extrêmement active sur tous les fronts, et notamment sur le front de l'information ou de la désinformation ou de la bataille de l'information. Donc c'est vrai que la question, enfin les services de renseignement américains ont été quand même très très loin dans leurs accusations. C'est vrai que c'était assez avant les élections. Et donc Donald Trump, qui ne veut pas se laisser voler son triomphe avant son investiture, continue à dire que pour lui, c'était des accusations peut-être politiques. Il a du mal à le croire. Mais je pense que le fait qu'il y ait aujourd'hui une enquête qui a été décidée par le Congrès et qui est en fait décidée à la fois par les démocrates et les républicains montre qu'il y a une vraie inquiétude dans les milieux informés américains sur l'action de la Russie sur ce front cyber, mais de manière plus générale dans son rapport avec l'Occident. Et je crois que ça va être un énorme sujet dans les prochains mois, y compris en Allemagne. Vous avez vu qu'il y a eu aussi des accusations très graves qui ont été portées par les services de renseignement allemands sur l'existence d'attaques cyber russes.
Très bien, merci beaucoup Laure Mandeville. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro. On vous retrouve juste après ce journal avec Caroline Brouet. Au Maroc, la justice a relaxé hier deux mineurs accusés d'homosexualité. C'est une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme, alors que l'homosexualité est toujours un délit dans le pays. Une décision qui pourrait faire jurisprudence, Sarah Doublier.
Le verdict annoncé par l'Association marocaine des droits de l'homme est une première. Les deux jeunes filles ont été remises officiellement à leur famille, sans que la loi pénalisant l'homosexualité n'ait été appliquée. Ce sont pourtant des membres de leur famille qui avaient appelé la police après avoir surpris les deux adolescentes en train de s'embrasser sur le toit d'une maison. Interpellées fin octobre, elles avaient été placées en détention provisoire pendant une semaine, puis relâchées sur la pression des associations. Âgées de 16 et 17 ans, les jeunes filles tombaient sous le coup de la loi 489 qui punit jusqu'à 3 ans de prison ferme les relations entre personnes du même sexe au Maroc. Selon l'un des avocats de la Défense, la clémence de la justice est due au fait qu'elle concerne des jeunes filles mineures. L'Association marocaine des droits de l'homme assure, elle, que ce verdict fera date dans l'histoire de la défense des libertés individuelles dans le pays et espère pouvoir s'en servir dans d'autres affaires de personnes poursuivies pour homosexualité au Maroc.
Précision de Sarah Doublier. Au Nigeria, un attentat a tué 45 personnes et blessé une trentaine d'autres dans le nord-est du pays hier. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le procédé ressemble au groupe djihadiste Boko Haram. Coup de théâtre en Gambie hier, alors qu'il avait reconnu sa défaite la semaine dernière. Le président sortant, Yahya Jammeh, rejette finalement les résultats. Il demande désormais de nouvelles élections, car il y a eu, selon lui, des erreurs électorales.
France Culture, 8h. 11, suite du journal de Maxime Fayol. En Italie, la plus vieille banque du monde est au bord de la faillite. Elle doit trouver 5 milliards d'euros d'ici la fin décembre.
Et oui, hier, la BCE a rejeté sa demande de rallonger ce délai jusqu'à la mi-janvier. Totalement endettée, la BMPS risque de devoir être sauvée par l'État italien, voire par les petits porteurs, David Ravier.
La banque doit se débarrasser de plus de 27 milliards d'euros de créances douteuses et remettre 5 milliards d'euros dans ses caisses. Ces dernières semaines, la MPS a déjà réussi à récolter 1 milliard d'euros. Si au départ, la banque pouvait faire affaire avec des investisseurs étrangers pour engranger encore plus d'argent, le non au référendum italien a compromis cette possibilité. Seule solution envisagée maintenant pour rester à flot, se retourner vers l'État italien pour recapitaliser la banque. Dans cette optique, pour éviter de faire payer directement les États, les nouvelles lois européennes imposent que le sauvetage des banques soit fait en priorité par les actionnaires et les détenteurs d'obligations subordonnées. Une obligation subordonnée, c'est lorsqu'une banque emprunte de l'argent à un investisseur et qu'elle lui verse des intérêts en échange. Problème, de nombreux Italiens possèdent des obligations subordonnées qui leur ont été vendues par leurs banquiers comme étant des produits d'épargne. Si jamais la MPS chavire, ce sont donc des épargnants italiens propriétaires d'obligations subordonnées qui vont payer en priorité pour sauver la banque avant que l'État n'intervienne pour compléter la somme. Pour protéger les petits épargnants, le gouvernement italien réfléchirait donc à racheter les obligations subordonnées des clients pour ensuite les convertir en actions. Cela permettrait au gouvernement de limiter la casse auprès des Italiens, tout en sauvant une banque qui a déjà perdu plus de 80% de sa valeur boursière depuis le début de l'année.
David Ravier. Allez, on va se plonger dans la grotte de Lascaux maintenant, enfin plutôt sa réplique, la quatrième qui est inaugurée aujourd'hui par François Hollande. C'est la première fois que l'intégralité de la grotte est reproduite. Le scénographe Nicolas Saint-Cyr a créé tout le parcours de la visite et il est forcément très fier aujourd'hui.
C'est ma grande fierté, c'est un peu l'idée que j'avais menée de dire il y a la visite dans le fac-similé qui doit être consacrée à la contemplation et une seconde salle avec des portions de fac-similé où là tout l'outillage technologique nous permet d'analyser tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et ça, cette salle, elle est exactement comme on voulait. C'est une des plus belles salles dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. C'est impressionnant de voir ces fac-similés suspendus dans les airs comme s'ils flottaient et de cette technologie parce que dans le fac-similé, on garde une lumière qui est un peu une lumière d'il y a 20 000 ans. On essaie de recréer ça. Et là, on peut les examiner, toutes ces œuvres, mais en pleine lumière, ce qu'on peut même pas faire dans la vraie grotte. Donc, ce n'est pas un musée dans le sens où on n'a pas d'objet original, mais c'était indispensable pour pouvoir partager ce patrimoine mondial. On est allé dans les reproductions, mais qui sont d'une fidélité incroyable, inouïe. Donc, c'est pas un musée, c'est un centre international. Et les visiteurs, ils vont oublier que ce n'est pas vrai. Ils vont sortir avec la même impression que s'ils étaient allés dans la grotte.
Et Nicolas Saint-Cyr, le scénographe qui était l'invité des Matins de France Culture jeudi. Impossible de réécouter sur franceculture.fr. L'ouverture de l'ASCO 4 au public, c'est jeudi prochain, le 15 décembre. Un mot de météo, et je vous le disais, le pic de pollution est terminé. La qualité de l'air reste moyenne. Oui, la qualité de l'air reste moyenne quand même, selon Air Paris, ouais. Sur la capitale. Beaucoup de brouillard sur l'ouest du pays, du nuage sur la Côte d'Azur. Le soleil domine sur le reste du pays, mais il fait quand même froid ce matin. Moins 1 à Lyon, 1 degré à Strasbourg, 5 à Bordeaux. Les maximales, c'est comme toujours pour la Corse, avec 13 degrés à Ajaccio.
On vous retrouve à 9h.
Allez, pourquoi pas.